Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 TU. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide en direct de Washington. Nous sommes le mardi 10 septembre 2019 à la une de l'actualité ce soir. Le Rwanda va accueillir des réfugiés africains bloqués en Libye. Une première en Tunisie, 3 débats télévisés sont programmés pour départager les candidats à la présidentielle. Le président américain Donald Trump limoge John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale.
Ce n'était ce qu'on appelle un faucon. Il veut changer le régime en Iran. Il est très anti-iranien et pour lui même faire la guerre pour arriver.
Également dans l'actualité, le Premier ministre britannique en quête d'un nouvel accord de divorce avec l'Union européenne après des désaveux au Parlement. Et ne ratez pas non plus vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports dans 10 minutes environ. Le chef du gouvernement malien est à Paris. Boubou Cissé a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Au menu de leur tête-à-tête, la coopération sécuritaire contre les groupes djihadistes qui continuent d'attaquer le pays malgré plus de 6 ans d'intervention internationale. Boubou Cissé a remercié le président français de son soutien pour le renouvellement du mandat des forces de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Le combat du Mali contre le terrorisme est également le combat de la France et de l'Europe. Les soldats français et européens sont des camarades dans un même combat contre le radicalisme inhumain et l'extrémisme violent, a déclaré le Premier ministre malien. Des troubles au Nigeria, le mouvement chiite pro-iranien MIN accuse les forces de l'ordre d'avoir tué 6 de ses membres lors des processions religieuses de l'Ashura aujourd'hui, procession qui avait été interdite par les autorités à travers le pays. Dans la capitale Abuja, les célébrants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, d'après le groupe. La police n'a pas souhaité commenter ces affirmations. Au Tchad, l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois dans 3 régions du pays. En proie à des conflits armés, le Parlement tchadien l'a approuvé aujourd'hui. Le président Idriss Déby Itno l'avait décrété mi-août dans 2 provinces de l'Est, le Sila et le Wadaï, après des affrontements meurtriers entre communautés d'éleveurs nomades et de cultivateurs sédentaires qui avaient fait plus de 50 morts en quelques jours. Le chef de l'État avait également instauré l'état d'urgence dans une province du Nord-Est, le Tibesti, frontalière avec la Libye, où opèrent des orpailleurs illégaux et des rebelles tchadiens. Le Rwanda a paraphé un accord avec l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés pour accueillir temporairement des migrants africains bloqués en Libye. Le point avec Eki Abadou.
Hope Tumukunde Gasatura, représentante du Rwanda, l'Union africaine a déclaré à Addis Abeba que son pays va recevoir un nombre initial de 500 personnes dans quelques semaines. Ce premier groupe sera composé de personnes originaires de la Corne de l'Afrique. Ils seront accueillis dans un centre de transit au Rwanda avant d'être relocalisés dans d'autres pays ou s'ils veulent retourner dans leur propre pays. À la suite d'un reportage montrant ce qui ressemblait à un marché d'esclaves, Paul Kagame, le président rwandais, avait proposé dès novembre 2017 d'accueillir des Africains bloqués en Libye. La mort en juillet de 40 personnes après une frappe aérienne sur un centre de détention de migrants à Tajoura, près de Tripoli, a relancé la question. Selon le HCR, quelques 42 000 migrants africains sont bloqués en Libye. Le gouvernement rwandais se dit prêt à accueillir certains d'entre eux, mais uniquement un groupe de 500. L'Union africaine espère que d'autres pays africains accepteront de fournir une aide similaire.
4 cas de choléra confirmés au Soudan. Le gouvernement fait état de 3 morts des suites de diarrhées aiguës dans l'état du Nil bleu, ce qui fait craindre une épidémie dans cette région rongée par le conflit. 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Tunisie pour choisir le successeur du président Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet dernier, à quelques mois du terme de son mandat. Les 26 candidats en lice battent campagne jusqu'à vendredi. Et pour la toute première fois dans ce pays, des débats télévisés sont organisés. Davantage avec John Lyndon.
Événement rarissime, voire inédit dans le monde arabe, ce débat télévisé a été organisé sur 3 soirées. Il a rassemblé à chaque fois un groupe de candidats tirés au sort. 3 millions de téléspectateurs ont suivi le débat samedi et 2,5 millions dimanche sur une trentaine de chaînes de télévisions et radios publiques et privées tunisiennes, ainsi que sur les réseaux sociaux et plusieurs chaînes arabes et étrangères. Tout le monde est unanime pour dire que cela a été une avancée et que cela s'est bien déroulé, s'est félicité Nouri Lachmi, le président de l'instance de régulation des médias audiovisuels en Tunisie. Outre les têtes d'affiche Nabil Karaoui, mania des médias incarcérés, Youssef Chahed, premier ministre en poste, et Abdel Fattah Mourou, premier candidat du parti Ennahda, 23 autres candidats se présentent à la présidentielle tunisienne du 15 septembre. Interpellé à l'Assemblée nationale française après l'arrestation de Nabil Karoui, le premier ministre français Édouard Philippe a laissé entendre que les autorités françaises sont attentives et confiantes dans la capacité de la Tunisie à suivre le chemin qu'elle a choisi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À la une de l'actualité américaine, le président Donald Trump a limogé son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, en raison de désaccords sur la manière de traiter les grands défis de la politique étrangère tels que l'Iran, la Corée du Nord et l'Afghanistan. Nathalie Barge.
J'ai informé John Bolton hier soir que ses services n'étaient plus nécessaires à la Maison-Blanche. Comme d'autres membres de l'administration, j'étais en désaccord avec beaucoup de ses suggestions et j'ai donc demandé à John sa démission, qui m'a été remise ce matin, a déclaré M. Trump sur Twitter. Le président a remercié M. Bolton pour son service et a indiqué qu'il nommerait un nouveau conseiller à la sécurité nationale la semaine prochaine. Son départ intervient alors que le président américain poursuit ses ouvertures vers Téhéran et Pyongyang, tandis que John Bolton est partisan d'une ligne dure vis-à-vis de la Corée du Nord et de l'Iran. Ces derniers jours, M. Trump a exprimé sa volonté de rencontrer le président iranien Hassan Rouhani, surtout après l'annonce au sommet du G7 d'une médiation française. John Bolton, un des artisans de la guerre en Irak, a été nommé conseiller à la sécurité nationale en mars 2018 en remplacement du général Herbert McMaster.
En Amérique encore, une élection partielle a lieu aujourd'hui en Caroline du Nord, un vote qui attire toute l'attention car il est perçu comme un test révélateur de la présidentielle de 2020. Le scrutin, avec à la clé un siège à la Chambre américaine des représentants, est organisé après des accusations de fraude lors de l'élection fin l'année dernière et de longs mois de polémiques. Les sondages internes des deux partis, républicains et démocrates, sont extrêmement serrés d'après le site Politico. Le scrutin ne changera pas la majorité de la Chambre basse détenue par les démocrates. Revirement au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson dit maintenant vouloir un nouvel accord de divorce avec l'Union européenne après une série de cinglants désaveux à la Chambre des communes qui ont mis à mal sa stratégie d'un Brexit coûte que coûte. Yacouba Ouedraogo.
Boris Johnson a déclaré qu'il allait s'évertuer à obtenir un accord d'ici le sommet européen à Bruxelles les 17 et 18 octobre. Les députés lui ont refusé l'organisation des législatives anticipées. Le Premier ministre, qui a perdu la majorité au Parlement, doit recevoir à Londres Arlene Foster, chef du parti unioniste nord-irlandais allié au gouvernement, et Nigel Dodds, son chef de file à la Chambre. Son porte-parole a démenti des rumeurs sur un assouplissement de la position britannique concernant le sort de la frontière irlandaise. Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de maintenir la frontière ouverte après le Brexit. Boris Johnson souhaite supprimer de l'accord négocié par l'ancienne première ministre Theresa May, une disposition qui, selon lui, empêcherait le Royaume-Uni d'avoir une politique commerciale indépendante. Mais pour Bruxelles, il n'est pas question de revenir sur cette mesure appelée filet de sécurité. Cette clause vise à empêcher le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, une province britannique et la République d'Irlande, un État membre de l'Union européenne.
En Irak, au moins 16 personnes sont mortes ce mardi dans une bousculade lors du pèlerinage chiite d'Ashura dans la ville sainte de Kerbala, près de Bagdad. La bousculade a fait également 75 blessés, d'après ce premier bilan qui pourrait encore augmenter. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis ce mardi d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée s'il remporte les législatives du 17 septembre. Il s'agit de la vallée du Jourdain et de la partie nord de la mer Morte. L'annonce de Benjamin Netanyahou intervient à une semaine jour pour jour de ces élections qui s'annoncent âprement disputées. L'Amérique doit de son côté présenter le détail de son plan de paix pour le Moyen-Orient après les législatives israéliennes. À ce jour, plus de 600 000 Israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle auprès de 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un coup d'œil sur les nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Nigeria déclare qu'il y a de fortes indications d'un marché pétrolier suraprovisionné l'année prochaine et d'une baisse des attentes de prix pour son pétrole brut. Par conséquent, le ministère nigérian des Finances abaisse les prévisions concernant le prix de référence, passant de $60 le baril à $55. Le plus grand exportateur de pétrole d'Afrique produit environ 2,3 millions de barils par jour. La raffinerie gaz à liquide de Mossel Bay en Afrique du Sud pourrait être en panne de gaz d'ici la fin de l'année prochaine. Les réserves de l'usine sont sur le point de s'épuiser et il n'y a toujours pas de solution durable, indique l'organisme sud-africain, le Fonds gouvernemental de l'énergie. Mossel Bay est l'une des plus grandes usines au monde. Elle est exploitée par la Société nationale sud-africaine de pétrole et de gaz, une filiale du Central Energy Fund. Pour terminer, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation en milieu urbain de l'Égypte est tombé à 7,5% en août, contre 8,7% en juillet et contre 14,2% l'an dernier. C'est le taux le plus bas depuis plus de 6 ans. Le taux d'août tombe bien en dessous de l'objectif de 9% que la Banque centrale égyptienne s'était fixé pour la fin de 2020. Selon les analystes, cela pourrait conduire les banques à procéder à de nouvelles baisses de taux d'ici le 26 septembre.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Djibouti historique au tour préliminaire du Mondial 2022.
Et oui, Djibouti s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe des éliminatoires. Vainqueur 2-1 de l'Eswatini à l'aller à domicile, les Djiboutiens ont tenu leurs adversaires en échec, 0-0 au match retour. C'est aussi passé pour le Zimbabwe, vainqueur de la Somalie 3-1, tout comme pour le Mozambique qui a battu Maurice 2-0 et le Malawi qui a dominé le Botswana 1-0.
La Serbie au tapis, l'Espagne et l'Argentine en demi-finale du Mondial de basket.
Vice-champion du monde en 2014 en Espagne, médaillé d'argent à Rio aux Jeux Olympiques 2016 et deuxième de l'Euro 2017, les Serbes ont buté de manière inattendue sur l'Argentine en quart de finale. Dans un match porté sur l'attaque, les joueurs de Sacha Djordjevic ont été battus 97-87. Les Argentins ont été amenés par un excellent Luis Scola, 39 ans, et encore meilleur marqueur de l'Argentine avec 20 points. Pour une place en finale, ils rencontreront les États-Unis ou la France qui s'affrontent demain. De son côté, l'Espagne s'est logiquement imposée contre la Pologne 90-78. Elle fera face soit à l'Australie, soit à la République tchèque. Dernière affiche des quarts de finale.
Le Nigeria, lui, s'est qualifié pour les Jeux Olympiques.
Si aucune équipe africaine n'a vu le second tour du mondial, le Nigeria a décroché son ticket direct pour les JO Tokyo 2020. Après son succès contre la Chine 86-73, le Nigeria termine ainsi 17e au classement final. Du côté des autres équipes africaines, le Sénégal a perdu 77-79 devant la Jordanie pour une décevante 30e place. La Tunisie a défait l'Angola 86-84 et termine 20e. Les Aigles de Carthage disputeront le tournoi qualificatif pour les JO. L'Angola s'en sort 27e pendant que la Côte d'Ivoire s'est accrochée à la 29e place sur 32 pays.
Et athlétisme pour terminer, Habib Cissé banni à vie.
L'ex-conseiller de l'ancien président de l'I2AF a été banni à vie de l'athlétisme par le comité d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme pour son implication dans un supposé système de corruption sur fonds de contrôle positif d'athlètes russes. Habib Cissé était le conseiller juridique de Lamine Diack, président de l'I2AF entre 1999 et 2015, accusé d'être au cœur d'un système de corruption au sein de la Fédération qui permettait à des athlètes russes contrôlés positifs de payer pour que leur cas soit retardé ou étouffé.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et le monde aujourd'hui qui se poursuit sur VOA Afrique. Merci d'être toujours branché. Jacques Aristide avec vous de Washington. Nous passons maintenant à notre segment magazine. Le chef de l'État guinéen est en tournée aux États-Unis. Une visite axée essentiellement sur l'économie. Alpha Condé veut attirer les investisseurs américains. D'ailleurs, une compagnie américaine veut investir dans le gaz en Guinée et le département américain de l'énergie a accordé une subvention $1 million pour l'étude d'impact. Le président guinéen est également venu promouvoir l'exportation de produits agricoles vers les États-Unis. Dans un entretien exclusif à VOA Afrique, le président Alpha Condé évoque aussi les raisons de son récent appel à des consultations en vue de changer la constitution de son pays. Au micro d'Abdourahmane Dia, il revient d'abord sur quelques-uns de ses projets dans l'énergie.
D'ici peu, la Guinée va être le principal exportateur de fonio aux États-Unis. Vous savez que le fonio n'a pas de gluten et est mieux que le quinoa. Malheureusement, avant, on n'en bénéficiait pas, on était de grands producteurs, mais c'est d'autres qui le transformaient. Aujourd'hui, nous transformons notre fonio nous-mêmes et nous sommes en train de mettre en valeur tout notre potentiel économique. Nous avons aussi fait des barrages. Nous avons Caleta qui fait 240 MW. Nous sommes en train de finir Soapiti qui fait 450 MW. Nous allons lancer avec l'OMES Kukutamba à Tougué qui va faire 200 MW. Et la société TBA va faire un BOT de barrage à Maria. Déjà, en moins de 10 ans, nous avons près de 800 MW que nous avons fait, alors qu'on était à 100 et quelques.
Vous avez besoin de plus de temps pour continuer dans ces projets?
Vous savez, les projets, c'est sur de longues années, c'est pas une génération, c'est plusieurs générations. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, le développement des États-Unis s'est fait après plusieurs générations. Donc, il s'agit de lancer le projet et progressivement, avec la jeunesse guinéenne qui est maintenant maîtrise, parce que nous avons la chance aujourd'hui que la jeunesse africaine maîtrise aussi bien que les occidentaux les nouvelles technologies, il viendra à ces jeunes de continuer ce que nous avons commencé.
Et vous entendez aller jusqu'à quand?
Ça, Dieu seul le sait, et le peuple.
Vous avez demandé au Premier ministre de lancer des consultations.
C'est tout à fait normal, parce que le peuple est souverain. Et je vous fais remarquer que les États-Unis ont déjà eu 27 constitutions. Il est normal qu'on interroge le peuple. Le monde évolue, il est normal de comprendre qu'est-ce que le peuple veut. Cela n'a rien à voir avec une élection. C'est de voir est-ce que aujourd'hui les conditions sont en pleine Guinée pour la protection des enfants, etc. Donc je ne suis pas venu pour discuter politique, je ne suis venu pour les affaires. La Guinée est un pays souverain, il a démontré en votant non en 58 et la Guinée tient absolument à sa souveraineté, à son indépendance. Donc les problèmes guinéens sont discutés en Guinée, non pas à l'extérieur.
Entrevue avec le président guinéen Alpha Condé. Il était interrogé ici à Washington, la capitale américaine.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, focus sur la Guinée à l'occasion de la visite du président Alpha Condé aux États-Unis. Le locataire de Sékou Touré est venu promouvoir la destination Guinée aux investisseurs américains. Mais en Guinée, le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution occupe à nouveau la une des journaux après l'annonce du président de consultation dirigée par le Premier ministre. Le débat sur un possible troisième mandat d'Alpha Condé est-il fondé? Comment faire pour propulser l'économie guinéenne vers l'émergence? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Mali, depuis quelques semaines, les jeunes font montre de leur colère sur l'état des routes. Après Kay, Kita, Kati, Koulikoro, Didieni, la ville de Gao se prépare également à une manifestation demain, mercredi, visant à bloquer l'accès des grands axes routiers dans la région. Modibo Dembélé a joint Hamadoun Abdoulaye, président de la plateforme Ensemble pour Gao.
Nos motifs sont très simples, d'autant plus que de la crise à maintenant, la région de Gao est dans une situation critique, notamment la route qui nous lie au reste du pays. Aujourd'hui, cette route, Gao ne peut plus partir à Bamako, la capitale. Il faut faire le tour en passant par le Niger, le Burkina, deux pays pour se rendre à sa capitale. Nous avons dit, ne serait-ce que cette situation a trop duré, il nous faut vraiment une solution.
Nous constatons après Tombouctou, Kai, Djeni et maintenant Gao. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre ou le gouvernement du Mali a les moyens de refaire toutes ces voies routières?
Bon, vous savez qu'avant ces régions-là, Gao, pendant la crise et après la crise, a toujours été dans ces manifestations. Nous n'avons pas copié sur les autres. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, la route Gao, Bamako, est la seule route qui alimente toutes les régions du Nord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que cette route est délaissée et laissée. On ne peut pas aller à Bamako. Soit nous sommes pillés par des gens, des lignes sont posées, toutes sortes. Cette route traverse la région de Mopti, la région de Tombouctou, la région de Gao, qui nous lie encore à Kidal. Vous voyez l'importance de cette route. Donc aujourd'hui, il n'est pas là pour demander si l'État paie, mais qu'il doit le faire parce que c'est un devoir de l'État.
Face à l'insécurité qui prévaut ou non, la lutte contre l'extrémisme violent ne doit-elle pas prendre le pas sur les revendications, c'est-à-dire la réparation de la route Gao?
Je crois que la route fait partie de la sécurité. Vous voyez cette route, il n'y a plus de route. Si cette route était boudronnée, et que c'est pas, ça ne passera pas. Parce que la route n'est plus là. On peut placer des mines qui fait des morts. L'autre jour, nous avons assisté à un car qui a monté sur lui. Il y a eu plus de 20 morts. Vous voyez ce que ça fait. Donc la route aussi fait partie de la sécurité. C'est cause de laquelle l'État doit penser à la reprise de cette route-là.
Jusqu'à l'heure actuelle, est-ce que le gouvernement a réagi par rapport à votre menace de demain?
Jusqu'à présent, aucune réaction à notre niveau.
Pas de réaction même des autorités locales?
Pas de réaction jusqu'à présent. Moi, je vous parle.
On écoutait Hamadoun Abdoulaye, président de la plateforme Ensemble pour la ville de Gao, au Mali.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Au Maroc, le procès de la journaliste Hajar Aissouni a été reporté alors que des centaines de personnes protestaient devant le tribunal de Rabat. La jeune reporter est emprisonnée depuis le 31 août dernier pour avortement illégal et débauche. Son fiancé de nationalité soudanaise est également derrière les barreaux, tout comme le médecin traitant, un infirmier et une secrétaire médicale. L'avortement est interdit au Maroc, sauf si la vie de la mère est en danger. Pour en savoir davantage, Claire Morin-Gibourg s'est entretenue avec le directeur du site d'information Article 19, Ali Bouzerda.
Tout d'abord, moi, j'aimerais bien revenir sur cette histoire un peu pour expliquer les tenants et les aboutissants. Tout d'abord, il y a dans cette histoire qui s'apparente un peu à un roman policier, il y a deux positions contradictoires. La journaliste Hajar Aissouni, qui travaille depuis plus de deux ans et demi chez Akhbar Lyon, qui est un quotidien arabophone, édité à Casablanca. C'est un journal indépendant, critique vis-à-vis des autorités.
Madame Aissouni est également d'une famille d'opposants connus.
Oui, son oncle est le président de l'Union internationale des oulémas musulmans. C'est une galaxie très conservatrice qui prend un peu l'islam un peu plus rigide. Et l'ironie du sort, c'est que son oncle, par le passé, il avait dénoncé toutes les lois qui traitent de l'avortement. Pour lui, il ne faut pas qu'il y ait avortement. Et maintenant, il est tombé dans sa situation où sa nièce est inculpée pour avortement.
Quelles sont les réactions au Maroc suscitées par cette affaire?
Hajar Aissouni a suscité diverses positions, donc contradictoires. La première position, c'est que le journal et ses collègues dénoncent ce qu'ils appellent atteinte à sa liberté, à son intégrité physique, et qu'ils disent qu'il est poursuivi pour ses écrits. La deuxième position, c'est que sur le plan officiel, le parquet a publié un communiqué expliquant que la dame a été arrêtée suite à une opération d'avortement illégale dans une clinique à Abdel, dans un quartier résidentiel de Rabat. Par ailleurs, les ONG internationales et marocaines demandent une libération immédiate et qu'il ne peut pas être poursuivi par des lois témoignageuses suite au code pénal qui condamne à deux ans de prison des avortements illégaux. On est dans cette configuration. Et hier, le Conseil national indépendant a sorti un communiqué dont le sillage, il a demandé la libération de Hajar Aissouni et de son fiancé.
Est-ce que vous êtes étonné du report du procès?
Non, je ne m'attendais pas parce que la procédure est toujours la même. donc l'ouverture d'un procès, puis les avocats donc demandent à ce que vous ayez accès au dossier, à l'examiner, donc pour le temps, et donc on reporte jusqu'à une autre séance pour avoir plus d'informations pour pouvoir plaider et de prendre la personne qui est jugée.
On écoutait Ali Bouzerda, directeur du site d'information Article 19. Il était en ligne de Rabat au Maroc.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Notre coup de projecteur maintenant sur l'actualité américaine. Le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, a annoncé ce mardi d'un tweet le limogeage de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avec lequel il était en désaccord sur nombre de dossiers de l'Iran à la Corée du Nord. La nouvelle est tombée à peine une heure après l'annonce par l'exécutif américain d'un point de presse auquel devait participer John Bolton en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pour Téhéran, le limogeage de John Bolton est le signe clair que la campagne de sanctions américaines contre l'Iran est un échec. Pour un décryptage de cette nouvelle, Idriss Fall a recueilli les propos de Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines.
Putin était ce qu'on appelle un faucon. Il veut changer le régime en Iran. Il est très anti-iranien et pour lui, même faire la guerre pour arriver est acceptable. Le président, par contre, il est contre la guerre. Il veut pas que les soldats américains soient tués. Il veut ramener les soldats américains qui sont maintenant en Afghanistan, en Syrie, dans beaucoup de pays. Tandis que John Bolton était très agressif et il veut changer le régime en Iran, dans d'autres pays aussi. Donc, ils étaient complètement en désaccord.
Mais c'est pas nouveau parce que John Bolton, à l'époque, quand il a travaillé sous le régime de George W. Bush, c'était un faucon. Ce sont eux qui sont les principaux artisans de la guerre en Irak, non?
C'est vrai. Et donc, je crois que le président, quand il a engagé Bolton, il n'a pas vraiment compris ça. Vous vous rappelez que le président a quitté l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et il a commencé à faire pression avec des sanctions. Donc, il a pris Bolton comme conseiller parce que Bolton aussi était très anti-Iran. Mais au fur et à mesure qu'ils ont travaillé ensemble, le président a vu que Bolton est beaucoup plus faucon qu'il désire. Donc, ils ne pouvaient pas rester ensemble.
Les discussions avec les talibans en Afghanistan ont certainement joué parce qu'ils devaient annoncer un accord finalement qui n'a pas eu lieu. Est-ce que ça aussi, ça a contribué au départ de Bolton?
Oui, Bolton a dit, si vous voulez ramener des soldats, il faut les ramener. Ce n'est pas la peine d'avoir un accord. Le président Trump a voulu montrer qu'il peut faire des négociations, il peut faire des accords internationaux. Et il n'aimait pas que Bolton ait dit, non, ce n'est pas la peine d'avoir un accord, il faut quitter, ramener les soldats. Donc, ça aussi, c'était une source de dispute.
Maintenant que Bolton est parti et que récemment le président français a dit qu'il tente une médiation entre Washington et Téhéran, est-ce qu'on peut voir d'un meilleur œil une rencontre éventuelle entre Donald Trump et Hassan Rouhani?
À mon avis, oui. Parce que Trump aime faire des accords, comme il a fait dans son affaire de hôtel. Et ils voient que les Iraniens sont en train de souffrir maintenant. Ils vendent beaucoup moins de pétrole, ils ont beaucoup moins d'argent, la population a moins de choses à manger. Donc ils voient une possibilité maintenant de négocier. À mon avis, ils vont faire une négociation avec l'Iran.
Tout le monde a à l'esprit la présidentielle de 2020. Donc est-ce que les boys vont revenir de l'Afghanistan d'ici là? Ou bien?
Oh, j'en suis sûr, parce qu'il veut montrer à la population américaine, voilà, je suis un homme de la paix, je ne veux plus faire des aventures comme on fait sous Obama, sous Bush, je suis un homme de paix, je ne veux plus la guerre. Donc ça va lui aider en 2020 pour les élections.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, joint à Washington. Et voilà, point final à ce Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Sheikh Tsero. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
Bienvenue à bord.